De toute façon, la nouvelle route maritime, ça va être ça. Ça va être un truc où, encore une fois, on est les rois de la piste. Et les hommes sont plus forts que tout le monde. Et donc, on va passer par là. Ce qui est pas une route de bon sens du point de vue de la glace, du climat, de la nuit, de tout ce qu'on veut, quoi. Mais on s'en fout. On va y aller quand même.
La navigatrice Isabelle Autissi, elle commentait dans un documentaire l'été dernier le développement de cette fameuse nouvelle route maritime du Grand Nord à travers l'Arctique, dont le passage est facilité par la fonte des glaces. Et maintenant, même en hiver, pour la première fois la semaine dernière, un navire qui transportait du gaz, un méthanier, a traversé l'océan Arctique sans l'aide d'un brise-glace en pleine saison froide. C'est le Edward Toll et il fait partie d'une toute nouvelle génération de méthaniers capables de briser des glaces d'une épaisseur de 2 mètres. On va parler de ce que ça représente avec l'une des rares personnes, on peut dire, qui soit passée par là. Bonjour Marc Decret.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, spécialiste notamment d'affaires internationales. Vous avez été rédacteur en chef adjoint ici à la RTS Radio. Et puis, vous avez changé de vie. Vous êtes maintenant navigateur au long cours, aventurier, explorateur, en particulier d'ailleurs dans le Grand Nord. Ça ressemble à quoi cette route, cet endroit? C'est l'image qu'on s'en fait, c'est un désert de glace?
C'est à la fois un désert de glace et surtout quand on arrive à aller jusque dans les zones terrestres, c'est avant tout un désert de toundra, de rochers. Donc ce sont des régions totalement inhabitées, il n'y a pratiquement personne. Et effectivement, on peut se demander pourquoi y aller. Il y a des logiques, ces routes sont des raccourcis incroyables et surtout aujourd'hui, cette histoire de méthanier, c'est véritablement une pièce sur l'échiquier du big game qui se joue autour de l'énergie et de toute la guerre nordique autour du gaz et du pétrole. Et là, on a un nouveau pas et c'est un pas absolument essentiel. Oui.
Alors, on va parler avec vous de ce nouveau pas, comme vous le dites. Ce qui permet de passer, c'est l'amincissement des glaces à cause du réchauffement ou c'est le progrès technologique parce qu'on est capable de faire des bateaux qui peuvent maintenant briser la glace tout seul ou c'est un peu des deux?
Non, c'est indiscutablement le réchauffement climatique, il diminue l'épaisseur de la glace. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à l'idée reçue, un brise-glace n'est pas un bateau pointu qui fend la glace. Un brise-glace, même s'il n'est pas méthanier, mais un simple brise-glace, c'est avant tout un bateau qui a un fond à l'avant très plat, un peu comme une sorte de plan incliné inversé, avec de très gros moteurs. Et le principe, c'est que les moteurs vont pousser le bateau au-dessus de la glace. Il va monter sur la glace et de par son poids, il va l'écraser. Et c'est exactement ce qu'ils font maintenant avec ces méthaniers. Simplement, ce sont des méthaniers. Donc derrière le brise-glace, si on veut, il y a un volume de chargement. Mais ce sont des bateaux qui ont un fond très plat à l'avant, très en plein incliné et qui vont simplement casser la glace par leur propre poids. Eh bien, il y a une limite physique à ça. C'est à peu près 2 mètres d'épaisseur de glace. Oui. Un vrai brise-glace peut aller jusqu'à 3 mètres d'épaisseur. Et voilà, 2 mètres d'épaisseur avant, c'était quelque chose qui n'existait pas, en tout cas en plein hiver. Et maintenant, eh bien, c'est effectivement ce qu'est la banquise aujourd'hui. Avec le réchauffement climatique, la banquise fond complètement l'été. Et donc, l'hiver, c'est seulement ce qu'on appelle de la nouvelle glace. C'est de la glace de l'année. Et elle atteint rarement plus de 2 mètres d'épaisseur. Contrairement à il y a peut-être 50 ans, on avait de la vieille glace sur laquelle chaque année se rajoutait une couche qui compensait la fonte.
Quand Isabelle Autissier dit que c'est pas une route de bon sens à cause des conditions, glace, voilà, on l'a dit, le climat, la nuit, etc.
Oui, mais ça, c'est une réflexion de marin. C'est vrai que c'est pas une route de bon sens aussi au niveau du marin, parce que c'est une route difficile, dangereuse et compliquée. Mais si on pense, évidemment, en termes de stratégie, de transport, c'est une route qui a toujours fait rêver les hommes. Faut se rappeler que le fameux passage du Nord-Ouest, qui est peut-être le plus connu, mais aujourd'hui, c'est pas là que ça se passe. Ça se passe dans le passage du Nord-Ouest. Il y a deux passages, si on veut. Vous allez de l'Atlantique à l'océan Pacifique. Donc, grosso modo, du nord de l'océan Atlantique vers le détroit de Bering. Vous pouvez passer soit par le passage du Nord-Ouest, qui va donc par le nord du Canada, soit vous passez par le passage du Nord-Est, qui va par le nord de la Russie. Historiquement parlant, quand on remonte aux grandes conquêtes, Christophe Colomb et autres, les grands conquistadors se sont heurtés au continent américain, et le rêve de l'homme, c'était de contourner ce continent. Ça s'est fait finalement par Magellan, par le sud, mais en même temps, pendant des années et des centaines d'années, on a cherché le passage par le nord, jusqu'en 1906, où Amundsen, lui, trouve le fameux passage du Nord-Ouest. Aujourd'hui, ça reste le passage mythique, c'est notamment le passage que nous avons franchi avec notre voilier Chamad à l'époque. On n'était que le 147e bateau de l'histoire à le faire, et ça, on est en 2011, vous voyez, donc c'est quand même quelque chose d'assez rare. Par contre, le passage du Nord-Est, il touche moins, dans le côté mythique, mais par contre, aujourd'hui, c'est celui-là. C'est là que ça se passe. Pourquoi? Parce que c'est la route qui permet d'aller en direction de la Chine, et en plus, qui permet aujourd'hui aux Russes d'exporter leur gaz qu'ils sont en train de produire dans le Grand Nord et de l'exporter vers la Chine. Parce que si vous imaginez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Russie, les Russes ont des grands champs gaziers, ça on le sait. On sait qu'il y a des grands gazoducs qui l'amènent notamment en Europe. On sait que ces gazoducs posaient problème parce qu'ils traversent l'Ukraine. Donc on a créé un nouveau gazoduc, le fameux Nord Stream, qui traverse toute la mer du Nord pour éviter tous les problèmes politiques avec l'Ukraine. Mais les Russes dépendent de l'Europe pour livrer leur gaz, et l'Europe dépend totalement de la Russie pour le recevoir. Les Russes, ça, ils veulent plus. Ils veulent à tout prix arriver à toucher d'autres marchés, et ces marchés sont les marchés asiatiques, la Chine et le Japon. Pour le Japon, ils ont déjà un grand centre d'exportation de gaz dans l'île de Sakhalin, qu'on a vu l'été dernier en faisant escale à port de Sakharov, où il y a une immense usine de liquéfaction de gaz. Et effectivement, cette usine livre essentiellement au Japon, tout le marché japonais, mais il y a encore le marché chinois. Et les Russes qui viennent de développer un nouveau projet dans la péninsule de Yamal, là vous êtes au nord de l'Oural à peu près, et là c'est un immense projet gazier. Et qu'est-ce que veulent les Russes? C'est pas l'exporter vers l'Europe, c'est l'exporter vers la Chine. Et là, il y a un seul moyen, parce que construire un gazoduc à travers toute la Sibérie, vous n'imaginez pas, le seul moyen c'est le bateau. Et donc il faut pouvoir le faire toute l'année.
Et d'ailleurs, il y a une grande série de ces méthaniers qui a été commandée. Celui-là, c'est le deuxième. Le premier, c'était l'été dernier. Celui-là est passé en hiver. Il y en a encore qui sont en route, qui sont en plan, qui sont prévus.
Absolument. Il y a donc 16 méthaniers au total. L'idée, c'est donc un grand projet de à la fois d'exploration, de sortir le gaz du sol. L'avantage de la péninsule de Yamal, c'est que c'est quand même sur le sol. Contrairement au plus grand gisement gazier que les Russes ont découvert, mais qu'ils n'ont toujours pas mis en exploitation aujourd'hui, qui est le gisement de Shtokman, qui est en pleine mer arctique, dans les icebergs, c'est très compliqué. Là, différemment, on est vraiment sur quelque chose de terrestre, même si c'est du permafrost, même si les usines doivent être mises sur pilotis parce que le permafrost bouge tout le temps. Eh bien, en dehors de ça, ils ont du gaz. Ils en ont beaucoup et ils ont inauguré, là on va voir les dates, ils ont inauguré l'été dernier la première usine de liquéfaction du gaz, parce que pour transporter le gaz, il faut le liquéfier, le descendre à une température de moins 162 pour le mettre ensuite dans le méthanier. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il s'agit de le transporter. Et donc, ils construisent des méthaniers. Et le premier, c'est intéressant, s'appelait Christophe de Margerie, du nom de l'ancien
patron de Total.
Et quand vous prenez le capital de cet immense projet qui s'appelle Yamal LNG, eh bien, vous avez 60% de capitaux russes, 20% c'est Total, et les 20 derniers pourcents, c'est chinois.
Voilà, on y est. On a fait la carte de ce big game, comme vous le dites. Donc, c'est quelque chose qui va se développer, en fait. Là, ce sont des premières. Il y a eu la première en été, la première en hiver. Ça, c'est amené forcément, nécessairement, à se développer de manière exponentielle. C'est facile de développer cette route-là, maintenant?
Alors, maintenant que c'est une question d'épaisseur de glace. La route est connue, elle est cartographiée, on sait où il y a des dangers, etc. Jusqu'à présent, il y avait déjà une route qui se produisaient pratiquement chaque été, les Russes accompagnaient avec des brise-glaces des cargos. Il y a eu déjà un certain nombre de cargos qu'on traversait. Maintenant, évidemment, pour le méthane, là, cette route, elle va vraiment exploser. Et il est prévu que d'ici 2021, c'est-à-dire grosso modo d'ici la fin de la construction des trois autres usines de liquéfaction, eh bien, il y aura à peu près 15 à 16 méthaniers qui sont actuellement en construction en Corée et qui tous, évidemment, vont utiliser cette route pour livrer sur le marché chinois.
Mais est-ce que utiliser, exploiter une route comme celle-là, il suffit de simplement de passer avec des bateaux? Est-ce que ça nécessite une infrastructure, des bases peut-être de sauvetage en cas de pépin? Qu'est-ce que ça implique?
Alors oui, forcément la route est extrêmement isolée, mais cela dit, les Russes depuis quand même de nombreuses années, pour des raisons d'abord stratégiques, ils ont leur fameux brise-glace nucléaire. C'est une route qui est bien contrôlée, beaucoup plus d'ailleurs que celle du nord du Canada, la fameuse route du passage nord-ouest. Aujourd'hui, il y a deux petits brise-glaces canadiens garde-côte qui la parcourent en été, et c'est tout. C'est une route qui n'est quasiment pas parcourue et qui, pour l'instant, en termes commercial, a moins d'intérêt que celle-là, puisque visiblement là, on est sur quelque chose qui est la guerre du futur, qui est la guerre de l'énergie.
Il y a un risque pour l'environnement, je vous pose la question simplement.
Oui, forcément. Alors après, le risque, il est dissocié en fonction de ce qu'on met dedans. Parce que dans le trajet et le transport, un méthanier lui-même n'est pas un gros risque pour l'environnement. Admettons que le méthanier coule ou que se brise sur des rochers, ce méthanier va libérer son gaz. Donc le gaz va s'évacuer dans l'air, c'est du méthane. Alors c'est peut-être pas très bon en termes, parce qu'on sait que c'est un gaz d'effet de serre. Mais globalement, en termes de quantité par rapport à la production de méthane, notamment dans le permafrost, c'est peu de choses. Donc là, il n'y a pas un risque énorme. énorme, et ces méthaniers, en plus de ça, utilisent leur propre gaz stocké pour faire marcher leur moteur. Donc en gros, là, on n'a pas un risque énorme, mais par contre, derrière le gaz, il y a le pétrole aussi. Et ça, c'est la suite. Et il est évident que si vous avez un pétrolier qui fait naufrage dans le Grand Nord, on se rappelle de la fameuse histoire de l'Exxon Valdez.
Oui.
Là, on change. Pourquoi ? Parce que l'environnement arctique, si vous faites couler un pétrolier au milieu de l'océan au centre, admettons au large des côtes de France, c'est une catastrophe au sens écologique première, mais pour la nature, les bactéries de l'océan, elles vont manger le pétrole, et au bout de 10 ans, vous ne voyez plus rien du tout. Ce qui n'est pas le cas du tout dans le Nord, parce que l'eau, elle a une température de quelques degrés, et là, les bactéries ne fonctionnent pas, et donc, pour que la mer elle-même digère une telle catastrophe écologique, alors là, ça prend des dizaines d'années.
Marc Decret, merci. Vous avez un film et un livre, hein, le film qui est déjà, a déjà été projeté, je crois, Marin à l'encre, et il y a un livre également. Il ne reste qu'un second, mais c'est quoi ce projet?
Là, l'idée, c'était ce qu'on a fait l'année dernière, c'était d'emmener des écrivains dans un territoire aussi incroyablement inspirant que l'Alaska, de les emmener, de les mettre au Paris. Vous venez, vous découvrez, vous vous imprégnez, et ensuite vous écrivez. Et le but, c'était de produire un livre de nouvelles, et c'est ce qui est en train d'être terminé maintenant. Le livre va sortir début avril. C'est véritablement des nouvelles inspirées de là-bas, dont le côté un peu aussi intéressant, c'est qu'il y a deux écrivains et il y a un bédéiste. Il y a aussi une nouvelle qui est en BD. C'est une autre manière d'écrire des histoires. Et tout ça donc sort début avril, est accompagné par un film. Il y aura des conférences là, qui vont vous montrer que voilà, ça c'est un autre big game. C'est le big game des idées.
Voilà, une autre facette.
Et la culture, c'est aussi important que le pétrole.
Effectivement, oui, certainement. Il faut des idées et du pétrole. Il faut les deux. Merci Marc Decret d'être venu nous expliquer cette route du Grand Nord dans tout un monde. Et bonne journée.
Bonne journée.